remue-ménage. Remue-ménage, c'est Ondes Femmes sur Radio Zone 93,8 tous les mercredis en direct de 17h à 18h30. L'émission est rediffusée le jeudi à 10h et 15h. Remue-ménage sur Radio Zone 93,8. Bonsoir et bienvenue ce mercredi en direct dans Radio Zone 93.8, Ondes Femmes. Et tout de suite pour commencer, de 17h à 18h30, c'est Remue-ménage. Remue-ménage que vous retrouverez le jeudi, comme on vient de vous le dire, mais à une heure un tout petit peu différente puisque c'est 11h. Et 17h. Voilà. Alors, pour cette semaine, qu'est-ce que nous vous proposons? Eh bien, notre programme est un petit peu en lien avec l'actualité de la semaine prochaine dans la ville de Genève. En l'occurrence, la semaine prochaine, vous est proposé à Belle Usine, Place d'Armes, Genève, une semaine, enfin 4 jours, plus précisément, sur le thème 1492-1992, 500 ans de résistance amérindienne. Organisé conjointement par l'ASNA, l'Association de sauvegarde des nations amérindiennes, et Radio Zone. Radio Zone qui va animer avec l'ASNA toute une série de propositions du mardi au samedi, que ce soit des films, des conférences, des débats et puis des soirées plus culturelles avec danse et musique. Nous en reparlerons en tant que du programme très en détail, mais cette... Ce programme de la semaine prochaine, du mardi au samedi, plus mes récents voyages en Arizona, et entre autres parcourant certaines réserves indiennes, m'ont donné envie de vous parler de la femme amérindienne. Bon, il faudra tout de suite préciser un certain nombre de mots, le mot indien en l'occurrence, mais avant peut-être de se lancer dans le vif du sujet, eh bien, j'aimerais que nous commencions un peu en musique, et aujourd'hui en musique, je vous propose que nous passions cette émission avec le dernier disque de Mama Bea Tekielski. Peut-être que vous le connaissez déjà parce qu'il est sorti en 1991, peut-être allez-vous le découvrir avec nous aujourd'hui, mais le thème de ce disque c'est No Woman's Land, il n'y a pas de terre pour les femmes. Et peut-être cela a-t-il à voir un peu avec notre histoire des femmes indiennes. Alors tout de suite, la première chanson de ce disque, Hanna, Mama Bea Tekielski.
Bye. aux chasseurs de primes et aux trafiquants d'ivoire que c'est du sang qui coule dans leurs vitrines et qu'ils abîment l'histoire de leurs enfants. Va dire aux marchands du monde que tout ce bleu et ce vert, il est à nous. Et si Dieu n'est pas qu'une ombre, il jettera leur prière au fond d'un trou. Haine. Il va leur dire ça. Haine. Il va leur dire
Mama Béa, Mama Béa Tekielski, dans ce magnifique disque No Woman's Land, pas de terre pour les femmes. Je vous le disais, aujourd'hui l'émission va fonctionner au rythme de l'Amérique du Nord en l'occurrence, puisque c'est des Indiennes d'Amérique du Nord, des Amérindiennes, je ne sais pas comment il faut dire, nous allons en discuter tout de suite, que nous allons passer cette fin d'après-midi ensemble aujourd'hui dans Onde Femme Remue Ménage 93.8. Je vous rappelle que si vous le voulez, vous pouvez toujours nous appeler en direct pendant l'émission en téléphonant au 50 40 51 41. Je répète 50 40 51 41 et en faisant le 023 si vous téléphonez depuis Genève, la Suisse voisine, ou le 0033 si vous appelez depuis le canton de Vaud. Alors, il y a une autre annonce que je voulais, un autre événement, mais qui est plus proche que celui de la semaine sur le thème 500 ans de résistance amérindienne, puisque c'est de demain qu'il s'agit, jeudi 13 février. Jeudi 13 février, de 9h à 19h, sur Radio Zone, grande journée Swiss Aid. Alors, de quoi s'agit-il? Pourquoi Radio Zone s'engage-t-elle aux côtés de Swiss Aid? Eh bien, tout simplement parce que cette association a décidé de lancer une grande journée sur le thème « Pendant 500 ans, ils ont été dépouillés, bien sûr, qui ça, ils, les Amérindiens ?» et proposant dans la presse un clip où l'on voit petit à petit un Indien se faisant dépouiller de ses vêtements pour illustrer comment les Européens ont saccagé les richesses de l'Amérique. Ils se retrouvent finalement quasi nus et Swiss Aid se propose le jeudi 13 février de restituer aux Indiens l'or repillé, mais non pas sous forme d'or ni même de vêtements, mais sous forme d'argent qui serviront à soutenir les projets de développement que les différentes populations d'Amérique décideront d'entreprendre. Alors, Radio Zone soutient cette journée et en quoi cela va-t-il consister? Bien évidemment, en étant en direct sur nos ondes, donc jeudi 13 février de 9h à 19h sur 93.8 et en ayant en direct toute une série d'invités. Alors, peut-être je vous les donne pour vous attirer, vous donner envie d'écouter demain. C'est le matin d'abord Didier Daria, secrétaire romande de Swiss Aid, Gabrielle Nunchen, qui est présidente de l'association Swiss Aid, des femmes équatoriennes, des femmes nicaraguayennes, des femmes colombiennes, entre autres les Negrita Colombianos, c'est-à-dire les femmes noires de Colombie, le journaliste Jean-Philippe Rapp. Ça, c'est pour le matin. Et puis, vous aurez Barbara Del Pozzo, qui est la spécialiste de la presse pour Swiss Aid, la chanteuse du groupe Tamanaco. Et puis, à 14h30, l'après-midi, quelques journalistes de Radio Continental, qui est la radio argentine, une radio en Argentine, et avec qui nous ferons le point sur la situation en Argentine. Alors, durant toute cette journée, je le répète, de 9h à 19h sur Radio Zone 93.8, journée Swiss Aid. Et bien sûr, il faut que vous appeliez en direct pour faire des promesses de dons. C'est notre façon à nous de soutenir, de restituer aux Indiens l'or qui a été pillé pendant ces 500 ans. Vous pouvez aussi, si vous le désirez, acheter dans la rue, si vous vous promenez dans les villes de Genève et Lausanne, eh bien, vous pouvez acheter les poupées Swiss Aid vendues au prix de 4 francs. Ce sera une autre façon de soutenir la restitution de leurs pieds. Alors ça, c'est pour demain sur Radio Zone 93.8. Oh, Le soleil du matin, la douce terre nouvelle et le grand silence. Nous avons toujours eu beaucoup. Nos enfants n'ont jamais pleuré la faim. Notre peuple n'a jamais manqué de rien. Les rapides de Rock River nous fournissaient en abondance un excellent poisson et la terre très fertile a toujours porté de bonnes récoltes de maïs, de haricots, de citrouilles et de courges. Ici était notre village depuis plus de 100 ans, pendant lesquels nous avons tenu la vallée du Mississippi sans qu'elle nous fût jamais disputée. Notre village était sain et nulle part dans le pays on ne pouvait trouver autant d'avantages ni de chasse meilleure que chez nous. Si un prophète était venu à notre village à ce temps-là, nous prédire ce qui devait advenir, ce qui est advenu, personne dans le village ne l'aurait cru. Makataime Shekaikak, ou Black Oak, chef des Sauk et des Foxes. Petit enfant, petite fille, douce petite fille, bien que tu sois un bébé, bientôt tu joueras avec un autre bébé, et un autre bébé viendra. Petite fille, enfant, petite fille, petite femme si délicieuse. C'est une berceuse Zuni, les Indiens Pueblos, d'Arizona. Alors cet après-midi, je vous propose d'évoquer les femmes américaines du Nord, indiennes, grâce par l'intermédiaire de deux livres écrits par des femmes. Deux livres dont un s'appelle « Daughter of the Earth » puisque c'est un livre écrit par une femme américaine, Caroline Nithammer, « Les filles de la Terre », qui nous raconte les vies et les légendes des femmes amérindiennes. Et puis l'autre livre qui va me servir d'inspiration, c'est un livre que vous connaissez sûrement parce que celui-ci est déjà beaucoup plus connu et il s'appelle « Pieds nus sur la Terre sacrée ». Et ce livre, publié déjà il y a longtemps chez De Noël en 1974 déjà, eh bien, contient des textes qui sont réunis par Terry McLuhan, une jeune femme qui a réuni tous ces textes, entre autres inspirés par les photographies d'un homme américain, Edward Curtis, qui durant 50 ans de sa vie s'est consacré à faire des photos sur la vie des Indiens d'Amérique du Nord, sentant que c'était peut-être la dernière occasion de figer sur du papier ce qui était ces cultures traditionnelles. Alors ces deux femmes ont consacré une bonne partie de leur existence à écrire ces deux livres. Je crois que chacune d'entre elles y a consacré en tout cas 2 ans de son existence. Et chacune à leur façon, elles ont à mon avis contribué à nous faire découvrir quelle est la vie de ces Indiens, comme on les appelle chez nous, qui vivent en Amérique du Nord. Alors, Filles de la Terre, ce livre écrit par Caroline Nithammer, nous intéresse tout particulièrement, nous en tant que femmes, puisque c'est vraiment le portrait des femmes les moins connues d'Amérique, comme elle le dit elle-même, c'est-à-dire les Indiennes. Peu de gens ont évoqué les femmes, nous allons le voir. Elle a consacré l'entièreté de son livre à décrire la vie de ces femmes. Alors, comment a-t-elle procédé? Eh bien, elle-même, elle a fait de nombreuses interviews des femmes indiennes actuelles, modernes, et puis elle s'est basée sur les écrits d'anthropologistes qui avaient fait des études avant elle. Mais elle a aussi consulté des vieilles chansons, des légendes. Elle s'est penchée sur la description des cérémonies, et c'est toutes ses recherches dans toutes ces directions qui lui a permis d'écrire « Filles de la Terre ». Alors, je crois que je vais commencer par vous parler de l'introduction qu'elle propose à son livre. Bon, d'abord, juste que vous compreniez, c'est que en tournant ces pages, nous allons découvrir jour après jour la vie des femmes indiennes, tout simplement chronologiquement, si je puis dire, dans la mesure où le livre de Caroline Nithammer, commence par la naissance et les rites de la naissance. Et puis, petit à petit, on va avancer dans la vie et découvrir au fur et à mesure ce qui concerne la vie des femmes parmi les différentes tribus d'Amérique du Nord. Ça, c'est un petit peu le déroulement du bouquin. Et c'est bien sûr sur cette base-là que je vous raconterai un petit peu des extraits de ce livre. Alors, il y a de nombreux chapitres, mais on découvrira bien sûr ce qui se passe à l'aube de la vie, ensuite l'enfance, et puis tout le passage depuis la puberté jusqu'à la ménopause, avec un temps important pour les tabous, comme elle le sous-titre. Ensuite, le partage de la vie entre séduction et veuvage. Et puis le rôle économique de la femme, surtout dans l'art de bâtir une maison, mais une maison qui est aussi le lieu où les gens vivent et se rencontrent. La puissance de la femme, parce que la femme, nous le découvrirons, dans les tribus indiennes, est parfois leader, elle est parfois docteur, mais elle est aussi parfois sorcière. Et c'est sous tous ces aspects que nous découvrirons la femme indienne. Et puis, aussi, parfois, la femme doit se confronter à la guerre. Est-ce qu'elle a battu? Est-ce qu'elle a été vainqueur? Est-ce qu'elle a aidé? C'est ce que nous découvrirons aussi. Et puis, il y a bien sûr quand même le temps pour s'amuser durant la vie de la femme indienne, pour s'amuser ou pour ses loisirs qui parfois sont consacrés à l'artisanat, à l'art, puisque certaines des tribus amérindiennes du Nord sont extrêmement habiles à confectionner toutes sortes d'œuvres d'art incroyables qui aujourd'hui d'ailleurs, nous le verrons, se vendent parfois très très cher dans le marché de l'art. Nous parlerons bien sûr beaucoup de la sexualité de la femme, de l'aspect religieux et de la spiritualité qui est une réalité constante dans la vie des Indiens d'Amérique du Nord. Et puis, le cycle va s'achever et nous rejoindrons la vieille femme confrontée à la mort dont on sait un petit peu déjà quelle importance elle a parmi les Indiens d'Amérique du Nord. Alors, je vous disais tout à l'heure, il faut bien préciser une chose peut-être pour commencer, c'est les termes que l'on emploie. Nous, bien sûr, en Europe, ou pour les Américains, enfin bref, je crois pour les pays du Nord, le terme indien est celui qui est habituellement employé pour décrire les premiers habitants, les indigènes de l'Amérique du Nord. Alors, bon, c'est évident que c'est un terme qui a été inventé par Christophe Colomb en 1492, lorsqu'il mit le pied ou est par ses successeurs espagnols ou français et britanniques qui débarquèrent sur le sol de l'Amérique. Et que, bien sûr, ça ne correspond à rien du tout pour les habitants eux-mêmes qui n'emploient pas, en tout cas dans leur langue, ce terme. Bien sûr, ce mot a été introduit en espagnol, en portugais, en anglais, en français, toutes les langues imposées par les colons, mais dans la langue d'origine des différentes tribus, et elles sont nombreuses ces langues, jamais n'existe le terme indien. On emploie bien sûr le nom donné à la tribu, mais jamais le nom d'ensemble, comme ça, collectif d'indiens. Alors, comment nous, est-ce que nous allons dire? Il y a des tentatives d'utiliser le mot amérindien, mais qui concerne aussi bien les indiens du sud que du nord. Bref, je ne sais pas très bien ce qu'il faut employer. Peut-être utiliserons-nous amérindien en spécifiant que c'est les indiens du nord chaque fois. Enfin, vous le savez, c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Et puis, dans le thème indien ou amérindien, il faut encore préciser une chose, c'est qu'en tout cas, dans l'image que l'on a des Amérindiens du Nord ou des Indiens du Nord, que ce soit chez nous en Europe ou peut-être en Amérique aussi, aux États-Unis, eh bien, il est absolument, je crois, rarissime de s'imaginer autre chose, quand on évoque ce mot, qu'une tête coiffée par les plumes magnifiques, qu'une personne montée sur une monture gracieuse et rapide, qu'on s'imagine rarement autre chose qu'une face rouge peinte, même encore parfois de peinture de guerre, dansant et criant autour d'un feu. Et pour ceux qui ont une vision un tout petit peu plus sophistiquée de la chose, peut-être s'imagine-t-il derrière le mot indien une face un peu burinée de l'homme médecine, comme on l'appelle, qui essaye de transmettre son savoir et les secrets mystiques de l'univers. Mais, en tout cas, Il est rare que quelqu'un considère que derrière le mot indien est inclus aussi le mot femme. Et que peut-être ceux qui imaginent que derrière le mot femme, qu'il y a derrière le mot indien le mot femme, eh bien c'est peut-être parce qu'ils connaissent les princesses Pocahontas, par exemple. Ou bien qu'au contraire, ils voient la femme qui est chargée et qui marche derrière, oui, marche toujours derrière son mari guerrier. Alors, la vérité, c'est que bien qu'il y ait eu effectivement des princesses amérindiennes très belles et très puissantes, par exemple comme les princesses Pocahontas, eh bien, il y a aussi eu des esclaves dans les tribus et des femmes qui étaient traitées très pauvrement. Mais en fait, la majorité des femmes amérindiennes, en fait, elles existent entre ces deux extrêmes. Ni princesses puissantes, ni femmes traitées comme des esclaves. Les femmes, en général, élèvent des enfants, elles réunissent la nourriture, elles cuisent les repas, elles construisent des maisons, elles soignent les malades, elles ont des relations sexuelles avec leurs maris, même parfois avec des hommes qui ne sont pas leurs maris. Elles font des prières aux divers dieux qui protègent la tribu et elles pleurent les morts. Mais la chose un peu surprenante, c'est que dans le cadre de toutes ces activités, qui est la tâche des femmes dans toutes les tribus d'Amérique du Nord, eh bien, on trouve en fait des façons très, très différentes de pratiquer ces tâches suivant les différentes tribus. Caroline Nittmeyer nous explique que durant les 2 ans qu'a duré sa recherche et l'écriture du livre, eh bien, on avait tendance à lui poser systématiquement les mêmes questions parmi ses amis dans des genres cocktails, conversations comme ça, cool. Et on lui disait tout le temps, mais est-ce que c'est vrai que les femmes indiennes, amérindiennes, sont terriblement soumises à leur mari? Et puis, tout à fait à l'opposé, quand on rencontre un autre ami, eh bien, on lui demandait, est-ce que dans la plupart des tribus indiennes, les femmes n'ont-elles pas le rôle de matriarche, c'est-à-dire est-ce que ces tribus ne fonctionnent-elles pas sur le principe du matriarcat? Alors, nous dit Caroline Nithammer, la réponse se trouve en fait, la réponse à ces deux questions varie beaucoup d'une tribu à une autre et suivant que les femmes vivent comme individuelles ou comme groupe. Et elles ont parfois beaucoup de puissance et beaucoup d'autorité, mais en tout cas, pas forcément sur le groupe lui-même, mais en tout cas par rapport à leur propre vie. Et les hommes et les femmes qui travaillent souvent en partenaire, c'est-à-dire elles doivent souvent, pour agir sur le monde qui les entoure, sur leur environnement, chacun a ses propres tâches, les hommes ont les leurs, les femmes ont les leurs, mais en tout cas ce qui est certain, c'est que les deux tâches, les deux devoirs des uns et des autres sont très mis en valeur et absolument nécessaires pour la survie dans le cadre de leur environnement. Alors bien sûr, à l'époque où on a une conscience absolument très élevée de l'importance du rôle de la femme et où nous nous posons, nous, les questions du rôle que nous avons dans notre société, eh bien, il y a, à propos des femmes amérindiennes, du Nord comme du Sud d'ailleurs, cela dit, des féministes qui aimeraient bien qu'on imagine que ces tribus fonctionnaient sur le principe du matriarcat. Or, les anthropologistes, et même celles qui se considèrent comme féministes parmi les anthropologistes, ne reconnaissent en fait aucune évidence aux théories qui parlent de matriarcat. En fait, il y a des tribus qui peuvent être considérées, et là, il y a 3 explications sur le rôle des femmes dans les tribus d'Amérindiennes du Nord. Soit certaines tribus sont ce que l'on appellerait matrifocales, c'est-à-dire où le rôle de la mère culturellement est très élaboré, très valorisé et joue un rôle central. Il y a les tribus qui peuvent être considérées comme matrilinéaires, c'est-à-dire où la descendance est reconnue à travers la mère. Et puis, il y a les tribus qui fonctionnent sur le principe du matrilocalisme, c'est-à-dire où la fille, lorsqu'elle se marie, habite toujours dans la maison de sa mère. Donc, l'ensemble des sœurs vivent avec la mère et leur mari. Mais en fait, il n'y a vraiment aucune étude vraiment bien documentée d'aucune société dans laquelle on puisse observer une puissance reconnue publiquement, parce que ça c'est important, donc une valorisation publique de l'autorité de la femme qui surpasserait celle des hommes. Par exemple, il se trouve qu'il y a une anthropologiste américaine qui a, dans sa contribution à une sorte d'étude orientée, mais d'un point de vue féministe, dans un livre qui s'appelle « Femmes, culture et société », elle a écrit que les femmes peuvent être importantes, puissantes et influentes, mais en réalité, en relation, disons, comparée aux hommes de leur âge et de leur statut social, eh bien, malheureusement, les femmes manquent toujours de reconnaissance et on revalorise très très peu leur autorité culturelle. Alors, je pense qu'il n'y a aucune surprise à entendre cela. Et même si dans les tribus nord-américaines, nord-amérindiennes, les femmes ont un grand pouvoir et un certain prestige, qu'elles contrôlent d'une certaine façon les biens de la famille et qu'elles puissent même tenir des cérémonies sacrées, eh bien, il y a toujours une limite qui est à un moment donné tracée et il y a des choses que la femme ne peut pas faire. Par exemple, elle ne peut pas porter ce que l'on appelle le fagot de bois sacré parce que si par hasard, en plus, elle était menstruée, cela veut dire qu'elle souillerait ce fagot de bois sacré. Elle ne peut pas faire certaines offrandes à des êtres surnaturels spéciaux, seulement les hommes peuvent le faire. Et elle ne peut pas organiser certaines cérémonies particulières qui sont seulement réalisées par les hommes. Quoique, les femmes pourraient éventuellement choisir les hommes qui vont faire ces différentes cérémonies et même refuser que ce soit certains d'entre eux si elles considèrent qu'ils ne sont pas dignes d'effectuer ces danses. Alors, quelle était la position des femmes amérindiennes, j'y arriverai, c'est pas un terme très commun encore dans mon langage, des femmes amérindiennes du Nord, comparée à ce qu'était la position de la femme blanche ordinaire à l'époque qui nous concerne, c'est-à-dire essentiellement à partir du 16e, 17e, 18e, 19e siècle, date à laquelle les premiers blancs sont intervenus dans la vie des Indiens. Remarquez qu'en plus, les blancs sont intervenus à des moments différents suivant les régions. Je vous ferai un petit planning géographique comme ça des divers tribus pour que quand, dans les chapitres très précis proposés par Caroline Needhammer, elle fait référence à une tribu, vous vous retrouviez de savoir à peu près d'où nous parlons. Mais donc, alors qu'à certains endroits, les Indiens étaient déjà chassés de leur territoire, repoussés par les Blancs, surtout à partir de la côte est des États-Unis, eh bien, d'autres, dans les grandes plaines par exemple, vivaient au contraire la pleine civilisation amérindienne et n'étaient pas du tout gênés encore par les Blancs. Donc on voit qu'il y a des différences très importantes suivant les régions sur à quel moment les Blancs ont influencé et ont transformé et voire même fait disparaître complètement les traditions indiennes. Donc, dans quelques instants, je vous propose que nous discutions justement comment les femmes blanches vivaient comparées aux femmes amérindiennes du Nord.